problèmes qui sortent pendant les élections. Et je regrette, je voulais faire un chapitre en fait sur la politique culturelle dans les villes, et j'aurais dû faire figurer cette anecdote dans ce chapitre parce que j'avais été tout à fait frappée par le fait que des tas de voix éminentes à Strasbourg, et notamment venant en partie, me semble-t-il, de la municipalité, c'était absolument indigné qu'on puisse inviter des gens comme nous. Ça, enfin, c'est arrivé dans des tas de villes. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu un papier dans le Monde Magazine sur le frère de François Fillon. Alors, le frère de François Fillon, non seulement il s'appelle Fillon, mais franchement, il lui ressemble. Donc, c'est difficile de ne pas avoir. Et bien, il est malheureux, il n'est pas Premier ministre, il n'est pas politique, il est pianiste de jeunes. Et bien, pendant 5 ans, comme il était le frère de François Fillon et disons son portrait avec disons moi, eh bien, il n'a pas pu jouer dans des villes de gauche, etc., etc. Non mais, et je suis assez sidérée parce que, après vous, au contraire, des gens de gauche devraient être contents d'accueillir des gens qui ne sont pas d'accord avec eux pour pouvoir discuter.
Il est peut-être très mauvais pianiste.
C'est vrai, ça doit être ça, François. Voilà, ça doit être ça. Mais je suis frappée, je regrette vraiment de ne pas l'avoir fait, ce chapitre. Peut-être
que j'en ferai un petit peu, en fait. C'est le livre inachevé, toujours inachevé. Parce qu'en fait, la gauche contre le réel, que certains appellent déjà le petit livre rose.
Ça me fait plaisir qu'il y ait une postérité pareille à celle du petit livre rouge, le cher François.
C'est à la fois une actualisation des maîtres censeurs.
Oui, c'est la suite. Hein.
C'est la suite.
C'est en quelque sorte la suite.
Les maîtres censeurs reviennent, ils ont pas le temps. Mais. Ça va un peu plus loin, ça explore ce que Baudrillard a appelé la gauche divine, la gauche du droit divin.
La gauche divine.
La gauche divine. Ça pose un peu les jalons de ce qu'est son parti de la réaction, dont Elisabeth est l'une des passionnariats, des égéries. C'est la Rosa Luxembourg des réacs.
D'abord, c'est le parti de la nouvelle réaction, s'il te plaît. Hein. Et en fait, pour répondre à cette question qui ne m'a pas été posée, cette fois-ci, ce livre est parti quand même d'une sorte de mouvement d'humeur. Mais chez moi, en fait, quand quelque chose m'énerve, ça me fait toujours rire en même temps. Et au printemps dernier, en 2011, je dois dire que j'ai été tout à fait frappée quand la grande presse, ça commençait par le Nouvel Obs, le Monde a suivi, et puis une sorte d'entropie médiatique qui fait qu'à la fin, c'était gradien. Je veux dire, si ça avait continué un peu, je pense que j'aurais eu droit à la vie du rail aussi. Et donc tous ces journaux, puis des émissions de télé, etc., ont tout d'un coup découvert qu'il y avait, alors selon les listes, le nombre et les noms variés, mais enfin en gros, c'était entre 5 et 10 personnes. Qualifiés de nouveaux réacs et que ces gens pouvaient s'exprimer dans les médias. Et toutes ces grandes bonnes âmes, tous ces bons esprits ont découvert ça et ont découvert que c'était scandaleux. C'est-à-dire, on dit, mais comment se fait-il que la liste de base, c'était Zemmour, Ruffol, Ménard, Finkielkraut et moi-même, en gros. Puis après, il y avait des variantes, il y avait Brunet aussi. Et tout d'un coup, l'idée que 5 personnes qui ne pensaient pas sur les sujets qui fâchent exactement la même chose que les 400 autres, je veux dire, ça leur paraissait invraisemblable. Et invraisemblable, scandaleux, et d'ailleurs, je cite avec plaisir Grazia, parce que c'est quand même le seul, la plupart ne demandaient quand même pas qu'on nous fasse taire. Ils me demandaient, disons, mezzo voce. Mais Grazia a non seulement titré son article « Faites les taire », mais en plus illustrer cet article avec des photos des quatre protagonistes en train de brûler. Et moi, ces photos en train de brûler, je veux dire, pour des gens qui m'ont mis la référence historique aussi facilement, je trouvais ça quand même un peu étrange. C'est-à-dire que le parti de la tolérance, si vous voulez, le parti de la liberté, passe son temps à demander qu'on interdise, qu'on sanctionne, qu'on fasse disparaître. Et je veux dire, me semble, au-delà de la rigolade, bien sûr, parce qu'il faut en rire, relativement inquiétant. Voilà, c'est parti de là, si vous voulez, et en plus il y avait une chose assez drôle, c'est que le premier chef d'inculpation, parce qu'en fait je me rappelle du premier article, je le raconte un peu longuement dans le livre parce que l'épisode était amusant, et qu'en plus je crois que les petites histoires permettent parfois de comprendre la grande. Le premier article est sorti après qu'un sondage, un unique d'ailleurs, un sondage, avait donné Marine Le Pen en tête du premier tour de la présidentielle. Alors là, combat, c'est-à-dire que tous ces gens qui depuis des années expliquaient au bon peuple ce qu'il convenait de voter et de penser, c'est-à-dire, bah, semble-t-il qu'on ne les écoutait pas, et il fallait à ce moment-là, on ne peut quand même pas dire qu'on n'aime pas le peuple. Ça ne se fait pas, surtout quand on est de gauche. Donc, il fallait savoir par qui il avait été entraîné, ce peuple. Mon client a été influencé, monsieur le juge. Et par qui il avait été entraîné, c'est-à-dire que ces 500 personnes, depuis 25 ans, pratiquaient la politique dite du cordon sanitaire avec le succès que l'on sait, c'est-à-dire qui a fait quand même grimper le Front National à peu près de, disons, 5-6 à 15-16%. Et nous, à 5, avec nos petits bras, eh ben, nous, on a contrebalancé tout ça, et tout ça était totalement ridicule, mais ça m'a quand même remis en tête, disons, que ce qu'il y avait, je crois que j'essaye de comprendre en fait ce qui m'a éloigné de la gauche. Eh bien, je crois que l'une des raisons majeures pour lesquelles je me sens très très loin aujourd'hui du camp idéologique qu'a pris la gauche, c'est disons, sa méfiance, voire sa détestation du pluralisme. Parce qu'encore une fois, et tu as cité Renaud Camus, et je vais en profiter pour en dire un mot, je veux dire, moi je ne suis pas d'accord avec beaucoup de choses que dit Renaud Camus. Que j'aime beaucoup lire, et j'aime aussi affronter ses accords avec lui. Prononcer le nombre de Camus aujourd'hui dans une rédaction, et vous allez avoir des réactions qui sont intéressantes parce que ce sont des réactions, disons, religieuses. Religieuses ou qui ne sont jamais des réactions pour vous dire il a dit ça, je ne suis pas d'accord, ça ne va pas, c'est toujours ouf, ouah, ça sent pas bon. Ça sent pas bon, d'ailleurs, on pourra appeler ça la gauche olfactive. Et voilà, il trouve toujours que ça sent mauvais. C'est-à-dire quand quelque chose, quand ils ne sont pas d'accord avec un point de vue.
Tu ne vas pas les forcer à mettre du guérin, quand même.
Ah, ben non, c'est vrai, on ne va pas les forcer. Et donc, cette pratique de la. Je commence le livre en fait en renversant la formule de Voltaire, qui est. Et je me dis, voilà, le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est je ne partage pas tes idées et je me battrai pour que tu ne puisses pas les défendre. Et ça, au-delà de toutes les rigolades, évidemment, on vit dans un état de droit, on n'est pas en résistance, il n'y a pas de fascisme. Je crois qu'il faut vraiment se garder de ces postures. Cela dit, je crois que la liberté d'expression, la liberté, disons, de confrontation des opinions doit être défendue. Et j'avoue, parfois, ça m'inquiète.
Oui, enfin, il n'y a pas de fascisme, mais le ventre est encore fécond.
Oui. D'accord, mais enfin.
Et est-ce que tu n'as pas le sentiment de... en parlant, en évoquant de certains sujets, sur les nombreuses émissions que tu as. Moi, j'ai lu l'article de Maurice Safran sur ton livre. J'ai appris que tu étais à la tête d'un groupe de presse, une grosse multinationale qui s'appelle Causard, que vous pouvez trouver ici à l'Ouvrier-Cadère, au fond. Aidez-nous.
Et je suis à la tête, qui est une hydre, en fait, puisqu'elle a plusieurs têtes de cette entreprise, dont François Miquelou. Non, mais t'as appris toutes sortes de choses dans le papier de Maurice Safran, y compris d'abord ce qui m'a beaucoup vexé, c'est qu'il me qualifiait de pleureuse. Alors en général, je ne sais pas pleurnicher, plutôt de rigoler, parce que je pense que ça, c'est vraiment important, je ne dis pas ça pour plaisanter, je pense que c'est très important d'avoir un peu d'humour, y compris par rapport à nous-mêmes. Donc ça, j'étais très vexée, et puis il commence son article en disant cette posture de dissident est ridicule. Ben oui, elle est d'autant plus ridicule que moi-même, je le dis tout le temps. Je veux dire, Valeurs Actuelles avait fait une qui était très empathique et très sympathique, mais enfin, nous appelons les insoumis. Et je dois vous avouer que j'avais trouvé le titre, mais c'est resté un peu coincé parce que insoumis est quand même un costume un peu grand, je trouve. Que je sache, je ne vais pas être arrêté à la sortie de cette librairie.
Mais tu préfères quand même être belle et rebelle.
Belle et rebelle, que moi, chez Renoche, mais celle-là n'est pas loin, franchement. Elle vient d'un film de Pascal Ferrand, en tout cas. À qui il faut le rendre malheureusement. Voilà, oui.
Mais est-ce que tu n'as pas peur, en évoquant certains sujets, en dédiabolisant le Front National, en parlant de Marine Le Pen sans te pincer le nez, de faire justement de progresser ces idées-là en France?
Non, mais moi je crois que la seule
façon. Tu ne contribues pas à la lubinisation des esprits.
D'abord, vous prêtez beaucoup de pouvoir. C'est peut-être beaucoup de pouvoir aux gens qui veulent s'exprimer. La deuxième chose, c'est que je ne me pince pas le nez parce qu'effectivement, je ne crois pas Marine Le Pen fasciste. D'ailleurs, il se trouve que même son père, je ne le croyais pas fasciste. Mais il posait évidemment d'ailleurs, c'est pas tellement ce qu'elle dit me convient souvent, pas toujours, c'est ce qu'elle dit pas toujours. Par exemple, j'ai écouté son discours du 1er mai, et il me semble que quand on veut réduire ou stopper les flux migratoires, il faut être intraitable sur une chose, c'est-à-dire moi aussi je suis pour la réduction des flux migratoires, mais si on veut s'attaquer au phénomène, il faut être intraitable sur une chose, sur le fait que ce ne sont pas les immigrés en tant que... ça ne doit comporter aucune hostilité, aucun jugement moral, aucun affrontement avec les immigrés. Et par exemple, venant d'où elle vient, avec les soupçons qui pèsent sur son parti, devrait le rappeler ce qu'elle ne fait pas. Et moi, quand j'entends ces partisans crier « on est chez nous », je dois dire que je déteste ce slogan. Quand j'entends, moi je suis d'accord que les gens ont le droit de savoir ce qu'ils mangent. Donc si vous voulez, l'histoire d'ailleurs de la polémique sur le halal, c'est encore un exemple qu'elle le fasse avec les intentions qu'on lui prête, c'est possible. Il n'empêche que dans ce pays où tout le monde pense que la transparence est une valeur suprême et où on doit savoir combien de colorants ou de ceci, cela il y a dans ce qu'on mange, je trouve ça un peu fort de café de dire aux gens qu'ils n'ont pas le droit de savoir quel type de viande ils mangent, et par ailleurs que s'ils ne veulent pas financer le culte musulman ou manger de la viande cachère ou halal, il me semble que c'est leur droit. En revanche, et donc j'ai trouvé ça totalement ridicule quand le premier réflexe du président actuel de la République a été de dire il n'y a pas de polémique, ah bon, il n'y a pas de polémique. Bah si, il y a une polémique, la preuve. Et quand on a découvert d'ailleurs, grâce c'est un auteur de Causeur qui a sorti cette affaire, on a découvert que quand les bouchers d'Île-de-France avaient fini par demander au ministère de l'Agriculture d'étiqueter la viande, la réponse qui leur a été faite était « Nous ne voulons pas qu'il y ait de mention du mode d'abattage pour ne pas stigmatiser les communautés. » Alors là, les bras, je dois dire, m'en sont tombés, c'est là où on n'est plus tout à fait dans le réel. En revanche, je déteste entendre, d'abord je n'aime pas les huées dans les meetings, je déteste ça, ça me met toujours très mal à l'aise. Et quand elle a parlé de cette question du halal et que les gens dans ces meetings huaient le mot halal, ça me met mal à l'aise. Je pense que si on veut discuter, c'est quoi la question? Pourquoi toutes ces questions d'immigration, d'islam, de tout ce qui a trait en quelque sorte à notre rapport à l'autre? Pourquoi ces questions reviennent sur la table? D'abord parce que ce sont des questions compliquées et qu'elles posent la question du modèle français. Moi, je continue à penser, peut-être, c'est un des points peut-être de désaccord avec Renaud Camus, pour moi, la France est un pays absolument multiethnique et de plus, n'importe quel individu peut rentrer dans la République. Pas n'importe quelle culture, pas n'importe quelle pratique et pas des groupes. Voilà, ça je le pense vraiment, mais je pense que ça devrait être discuté parce que les gens qui en tiennent pour le multiculturalisme où dans le fond chacun arrive avec sa valise, son dieu et ses pratiques, c'est aussi un modèle tout à fait respectable. Donc moi j'ai pas envie de le pousser des hurlements quand quelqu'un défend une autre thèse que la mienne.
Est-ce que c'est une vraie question? J'oublie le...